Je pense que c'est qu'un début, la dépression. Tout le monde finira dépressif.
Et ça commence ce soir, la Grande Dépression. Dans le rendez-vous sur France Culture, il sera question de Michel Houellebecq, de Keynes, de métaphysique, de cyclisme et même de suicide. Avec Gustave Kervern et Benoît Delépine qui signent Near Death Experience, avec Michel Houellebecq en meilleur espoir masculin, autoportrait d'un romancier en cycliste, Lucille Como.
Portrait de deux réalisateurs qui travaillent le cinéma avec peu de moyens et beaucoup de personnalité.
19h30, on fera Place Nette avec Xavier Delaporte et sa chronique Place de la Toile. Ce soir, une étude comparée entre la lecture sur liseuse et la lecture sur papier. 19h35, plateau économie avec Bernard Maris, l'auteur de Houellebecq Économiste, un essai à lire comme un exercice d'admiration littéraire, Manu Farine.
Au programme, voir comment Houellebecq utilise et détruit la pensée économique et par la même vaccine contre l'économie.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le nouveau journal de la culture de Zoé Sfez, une édition spéciale ce soir.
Alors, je vous montre rapidement, vous voyez ça, c'est une passerelle. Et le public empruntera cette passerelle pour se rendre sur le premier balcon. Et cette passerelle, elle sert en même temps de structure. C'est elle qui maintient les balcons. C'est pour ça que dans la salle, vous ne verrez pas de poteau. En fait, il a externalisé les structures, ce qui fait qu'il a pu faire une salle vraiment complètement asymétrique et se lâcher complètement dans la salle. L'avantage, c'est que du coup, l'air circule derrière les spectateurs. Et ça, d'un point de vue acoustique, c'est super parce que vous avez l'impression d'être enveloppé par la musique. Donc vous êtes complètement suspendu, en hauteur. Donc je pense que l'association sera assez agréable.
C'est votre son du jour, enfin du bruit, du son, work in progress, Zoé.
Exactement, parce qu'on est en plein travaux dans la grande salle de la Philharmonie de Paris, un chantier titanesque qui doit être livré en novembre pour ouverture en janvier prochain.
Et aujourd'hui, donc, pas de brève, mais seulement l'interview du jour pour ce journal de la culture. C'est la suite de votre grand entretien avec Laurent Bayle, le président de la Philharmonie de Paris.
Alors oui, petit rappel, la Philharmonie, c'est ce projet extrêmement controversé, projet d'une salle de musique classique qui a coûté extrêmement cher, 386 millions d'euros. Un projet surtout qui est un peu un serpent de mer puisqu'il faisait partie à l'origine du grand projet de la Villette voulu par Pierre Boulez avec la Cité de la Musique et le Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris. Projet qui n'avait pas abouti à l'époque et plus de 20 ans plus tard, cette salle va enfin voir le jour mais elle chamboule un peu tout puisqu'il existe déjà une salle de 1000 places dans la Cité de la Musique qui va être rebaptisée Philharmonie 2. Plusieurs questions se posent. Comment faire pour que ces deux salles ne se fassent pas concurrence? Comment gérer aussi la programmation, puisqu'on sait que la plupart des artistes vont avoir envie de se produire dans la grande salle. J'ai posé la question à Laurent Bayle.
Aujourd'hui, la salle des concerts, qui fait à peu près 1000 places, s'appelle Cité de la Musique. Les gens disent « je vais à la Cité de la Musique ». Demain, la Cité de la Musique et la Philharmonie ne feront qu'un. Et elles ne feront qu'un au niveau du projet artistique. Ensuite, chaque salle se crée sa propre spécificité. Et les artistes connaissent ça par cœur. Vous avez des répertoires qui nécessitent des formes d'intimité. Prenons le quatuor, parfois le récital, le piano. Et vous avez des répertoires qui, au contraire, requièrent des grands volumes. C'est aussi une ligne de partage naturelle. Le même artiste va de l'un à l'autre selon ce qu'il cherche. Beaucoup de questions abstraites, en fait, ont des réponses naturelles. Les égos rentrent en ligne de compte, bien sûr, mais ce n'est pas du tout ça le problème central. C'est si, en tant qu'artiste, vous n'allez pas vers la bonne salle, de toute façon, vous prenez le risque en retour de rater votre concert.
Alors l'une des grandes ambitions de ce projet de la Philharmonie, c'était une politique tarifaire tout à fait neuve. En fait, c'est une politique tarifaire à deux vitesses. L'offre varie beaucoup selon les genres de musique programmée. Et au sein même de la catégorie musique classique, les tarifs sont très variables. On est parfois jusqu'à 30% moins cher que les concerts Celle Pleyel. Quelle était vraiment votre ambition, Laurent Bayle ?
Vous avez raison, dans le monde idéal, je ne vous cache pas que nous pourrions espérer avoir une politique tarifaire encore plus avantageuse. Nous avons cherché à mettre en œuvre une politique différenciée. Premièrement, nous avons considéré que l'orchestre résident, l'Orchestre de Paris, qui fait 60 soirées par an ici, devait proposer une tarification plus avantageuse. Les tarifs proposés par l'Orchestre de Paris dans ses concerts vont de 40 euros en première catégorie jusqu'à 10 euros, étant entendu que dans le modèle tel que se présente la Philharmonie enveloppant, vous avez beaucoup de très bonnes places. Donc même les places à 10 euros sont des très bonnes places. Ensuite, nous avons considéré que nous devions distinguer ce qui relevait de la semaine et ce qui relevait du week-end. Quand vous voyez une tarification un peu plus élevée et une programmation, on va dire, un peu plus liée à des dimensions de prestige, avec des orchestres de grande notoriété, ils se situent en semaine, et là, vous pouvez avoir des tarifications en première catégorie de 80, 100, voire plus euros. Le week-end, là, ça change complètement. Nous proposons aux familles de venir à la Villette comme on va des fois dans des grands centres de loisirs. On passe sa journée à des tarifications tout à fait pondérées, où très souvent on retrouve des prix en première catégorie à 20 ou 30 euros et énormément de tarifications à 10 euros.
Alors on termine sur autre révolution culturelle. Il y a toujours une forme de critique ou de doute sur la capacité de l'environnement immédiat de la Villette à accueillir beaucoup de spectateurs, dont certains qui viennent de l'Ouest parisien, sachant qu'on est loin et que pour le moment il n'y avait pas tout à fait les infrastructures. Qu'est-ce qui va être mis en place justement pour ça?
J'aurais aimé, quand nous sommes installés à Salle Pleyel, j'aurais aimé qu'on se pose les mêmes questions sur les difficultés du public de l'Est parisien à aller jusqu'à l'Ouest. Malheureusement, c'est une question que je n'ai jamais entendue, ce qui est quand même juste au passage un tout petit peu étonnant. Prenons la question comme elle vient, assumons-la. On peut considérer que 40 à 50% des personnes viennent par le métro et nous avons mis en accord avec la RATP une densification des arrivées sur le spectre 19h30, 20h30 parce que nous avons décalé les concerts de 20h à 20h30 pour prendre plus de sécurité. Et enfin, aujourd'hui, là où nous avons 300 places de parking, nous passons à la fin de l'année à 950 places de parking. Donc le problème est insoluble. Si on prend le problème comme un absolu intangible, mais si on le prend comme qu'est-ce qui se passe dans le monde du début du XXIe siècle dans un grand centre urbain, non, nous ne sommes pas enclavés.
Laurent Baille, le président de la Philharmonie de Paris, ouverture donc prévue en janvier. Mais avant cela, le ministère de la Culture et la mairie de Paris, qui financent tous les deux le projet, doivent se mettre d'accord, puisque, je le rappelle, la mairie de Paris refuse de payer le surcoût généré par les retards dans les travaux de la salle. L'arrivée de Fleur Pellerin au ministère de la Culture a légèrement retardé les négociations, mais une rencontre est prévue très bientôt et bien sûr, on en reparlera dans le journal de la Culture.
Merci Zoé, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la Culture avec Benoît Lagane. Tout de suite, on commence.
Je pense que c'est qu'un début, la dépression. Tout le monde finira dépressif. Enfin, c'est un prix indispensable à payer pour la société que les gens veulent avoir. Il faut admettre qu'une bonne proportion soit dépressif et que tout le monde, à terme, le soit.
C'est Michel Houellebecq qui le dit, car c'est lui qui vous réunit tous les trois ce soir, Gustave Clairvern et Benoît Delépine dans Near Death Experience, le film qui le met en scène, et vous, Bernard Maris, dans votre essai Houellebecq économiste. D'abord, peut-être une première question, puisqu'il vous lit, comment chacun d'entre vous est rentré en contact avec lui ou avec son œuvre? Gustave Clairvern, on commence par vous.
Bah, en fait, c'est Benoît hein, qui m'a, comme d'habitude, incité à lire Houellebecq. Et puis après, bon... En termes de rencontre pure, c'était pour Le Grand Soir qu'on avait pensé à lui pour un rôle. Mais à l'époque, il avait dit oui, mais il avait eu un problème personnel. Il avait disparu de la circulation, comme souvent. Et donc, nous avons refait appel à lui pour ce film-là. Et cette fois-ci, il était bel et bien présent.
Quel était le rôle que vous vouliez qu'il tienne à l'époque?
Une forme de Diogène des centres commerciaux.
Benoît Delépine.
Qui lui ressemblait bien, enfin, et qui a finalement été joué par Gérard Depardieu dans Le Grand Soir. Donc.
Juste une question par rapport au livre que vous avez conseillé à Gustave Clairvern. Quel était ce livre, alors, le premier qu'il a pu lire pour rentrer dans l'œuvre de Houellebecq?
Bah, c'est-à-dire que moi, je pense que je les ai tous lus, mais je les ai bien sûr, comme tous les autres livres, déjà oubliés, mais en général. Mais c'est l'atmosphère générale de ces livres, hein, cette espèce de lassitude contemporaine hein, qui m'intéressait beaucoup. Et puis aussi, justement, le fait que ça soit très relié à un monde de l'entreprise qu'on connaît tous les deux, enfin qu'on a connu puis, quand dans les myriades de stages divers qu'on a pu faire quand on était jeune. Mais ça, moi, j'ai toujours trouvé que cet écrivain était très relié au monde moderne par rapport à la plupart des autres qui sont un peu plus évanescents, on va dire.
On en parlera. Bernard Maris, vous, par quelle œuvre vous êtes rentré dans
Moi, c'est par la première, par Extension du domaine de la lutte. C'était pour moi un coup de foudre quand j'ai lu ce livre. Il me parlait de moi, d'abord.
À quel titre?
J'étais peut-être un peu dépressif à l'époque, c'est possible. Et puis j'étais dans ce qu'il racontait, c'est-à-dire un peu la servitude volontaire, la soumission, le désir de marcher sur les autres, le désir d'avancer dans le mimétisme. Bon, c'était, ce livre m'avait vraiment frappé, puis après j'ai lu tous les autres, et la fin, ça a été le coup de massue, si je puis dire, ça a été La carte et le territoire qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Oui.
Un
commentaire, peut-être, Bernard Maris, sur cet état de dépression à la fois individuel, hein, celui de Houellebecq, il le dit lui-même, et collectif. Après tout, c'est aussi un terme économique.
C'est un terme économique qui a été inventé par Keynes, exactement. Keynes était celui qui avait introduit la psychanalyse en Europe, puisque c'est lui qui avait fait traduire Freud par ses copains, les Wolf. Donc, c'est vraiment... oui, un terme tout à fait approprié à la situation contemporaine, qui est une situation assez grise, assez... où on est heureux, mais on est comme un peu plus malheureux qu'heureux, où on a peur, on est un peu dans la peur du chômage, on a la peur, on est dans la soumission, parce qu'on sait très bien que si on veut avancer, il faut marcher sur les copains qui sont cadres comme nous. On est dans l'incertain, dans l'incertitude, et puis c'est une manière d'être terrorisé, cette incertitude que font planer les puissants sur nous. Donc cette atmosphère, ça c'est vraiment, il y a un homme qui... C'est pour ça qu'il a tant de succès, à mon sens. C'est qu'il décrit la petite musique qui fait nos acouphènes, quoi, cette espèce de musique qui tourne dans nos têtes et qui fait qu'on est soumis et qu'on a peur. Et en même temps, comme ce sont de très beaux romans d'amour, hein, chaque fois, eh bien, je crois que c'est ça qui fait son succès.
Avant d'être réunis ici ce soir pour le rendez-vous, est-ce que vous étiez déjà rencontrés, tous les trois ?
Moi, j'avais croisé... effectivement, de Lépide à Charlie à l'époque.
Et
il était assez content. Oui, à Charlie. Il était assez. Je sais qu'il m'avait dit qu'il me lisait à l'époque.
Oui, je lisais les chroniques.
Les chroniques de.
L'oncle Bernard,
oui, parce que c'est comme ça que vous signez à l'époque. Ouais.
Et moi, je suis un fan, hein, vraiment, à la fois de ce qu'ils font sur Canal et puis des films, hein, aussi. Moi, j'avoue, notamment celui avec Depardieu. Le titre, c'était quoi ? C'était
Mammouth.
Mammouth. Ouais. Lui aussi, il parle de notre vie, quoi. C'est nous qui sommes dans ces films.
En tout cas, Bernard, je voudrais vous rassurer, parce que nous avons parlé de votre livre avec Michel il n'y a pas très longtemps.
Et Michel Houellebecq, oui.
Il a adoré le livre. Il était très fier et il a trouvé le livre très pertinent. Voilà, donc,
bon, non, parlons
de primature.
Il vous l'a dit d'ailleurs, Bernard Maris,
oui,
il vous a fait un courrier.
Oui,
ah, quand même.
Il me l'a écrit. Bon, moi, j'avais envoyé les épreuves quand même. J'avoue que s'il avait dit, mon pauvre ami, je pense que je ne l'aurais pas donné à publication. C'était un peu risqué, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on s'est rencontrés après ça et il était assez touché. C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est qu'il a été touché. Il m'a dit, c'est une vérité, c'est assez étonnant parce que vous ne me connaissiez pas et vous avez trouvé une certaine vérité.
Bon. C'est un personnage, quelqu'un qui est tellement juste, hein, sur la société contemporaine, qu'il a attiré des gens comme nous. C'est-à-dire qu'on est allé vers lui, c'est jamais lui qui va vers les projets viennent vers lui, ce qui est assez fascinant. Quoi. Ça va jusqu'au disque de Jean-Louis Aubert, c'est étonnant. Mais c'est vrai que c'est un peu une espèce de phare de la pensée d'aujourd'hui. Et nous ne sommes peut-être que des petits papillons de nuit qui viennent se fracasser.
C'est vrai, c'est ça. Vrai. Quelle belle métaphore.
Le rendez-vous.
M'en fous, je suis mort.
C'est sur France Culture.
Plateau Quechua avec vous, Benoît Delépine et Gustave Carverne, cinéastes depuis le début des années 2000, après bien sûr la télévision, Groland sur Canal+. Hier sortait en salle votre 6e long métrage Near Death Experience. C'est l'histoire de Paul, 56 ans, un employé sur une plateforme téléphonique en dépression, interprété par Michel Houellebecq, et qui un vendredi 13, après un sujet du JT de TF1 de Jean-Pierre Pernaut, consacré à ce nombre de 13, quitte son foyer, fuit à vélo dans la montagne, bien décidé à se donner la mort. Alors le film a des allures de road trip métaphysique, avec en voix off le flux de conscience de Michel Houellebecq. Bande annonce.
Je m'étais fait l'idée d'une gentille petite vie, comme la plupart des gens. Peinard en famille, peinard au boulot, peinard dans ma tête. J'ai même réussi à aimer mes collègues, moi qui n'aimais pas l'amitié. Je souris aux plaisanteries de bureau. Un miracle, en somme. Mais tout ça s'est effondré. Le trop plein. Le trop vide.
M'en fous, je suis mort.
C'est là que j'ai merdé. J'ai toujours tout pris trop au sérieux.
Benoît Delépine, Gustave Carverne, comment est née l'idée de ce film? Vous vous souvenez du genre de conversation qui a pu accoucher d'un tel projet?
C'est né de deux faits réels. Quoi. D'ailleurs, le début du film est vraiment inspiré d'un fait divers qui a eu lieu il y a 4 ans, d'un homme qui, justement, le vendredi 13, décide de partir dans la montagne pour se suicider, qui n'y parvient pas, et lui, enfin, de son côté, est resté 4 mois dans la montagne avant de redescendre. Mais nous, ce point de départ nous plaisait beaucoup. Enfin, nous plaisait beaucoup là en termes de dramaturgie.
Oui, hein,
en soi, ça nous plaisait pas spécifiquement. Mais ensuite aussi, on avait traité des problèmes du monde paysan, du monde ouvrier, etc. Effectivement, du fait que les effets pervers du libéralisme les acculaient à des situations compliquées. Mais on n'avait pas vraiment parlé du monde du tertiaire. Et on s'est donc aussi, on voulait donc parler de ce qui s'est passé chez France Télécom, avec ces gens qui se suicident à force d'être trimballés de service en service, alors qu'ils ont peut-être pour la plupart commencé tout simplement à la poste, et puis qui ensuite se sont retrouvés propulsés dans un service commercial, puis pourquoi pas dans une plateforme téléphonique. Et ces deux vrais faits divers se sont entrechoqués pour nous pousser nous donner envie d'écrire ce film, quoi.
Gustave Carverne.
C'est aussi la volonté de sortir un peu du carcan, entre guillemets, de films un peu plus, avec plus de monde, plus de techniciens, un peu plus de budget, bien qu'on n'ait pas fait des films vraiment chers. Mais l'envie de revenir un peu aux sources de notre premier film où on était 10 dans une camionnette pour aller de Picardie en Finlande. Ça s'appelait Altra à l'époque. Et on avait envie de revenir à un film simple, plus profond aussi. Donc justement, sans gag, sans un film, ce que certains appelleront de la maturité, mais nous, ça fait longtemps qu'on a dépassé. Mais on a vraiment envie d'un film grave et profond, avec une seule personne. Donc on était 8, hein, on était 7 techniciens plus Michel. On est parti pendant 10 jours pour tourner ça, et voilà, on avait vraiment l'envie comme un trait de plume, faire un espèce de poème filmique.
Dès le départ, c'était Michel Houellebecq ?
Non, au départ, on n'avait pas vraiment...
On avait pensé à Guillaume Musso, mais... Non.
Il a refusé. Lui aussi, il était injoignable.
Non, on ne savait pas. On avait proposé un acteur qui ne le sentait pas. Et ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, on avait déjà pensé à Michel Houellebecq pour jouer dans Le Grand Soir. Et donc, on a vu, c'était au moment où il sortait son recueil de poèmes. Il est réapparu dans les médias, il est réapparu en photo dans les revues, etc. Et ça nous a tout de suite donné envie de le recontacter, puisqu'on l'avait contacté par mail à l'époque. Puis il se trouve qu'il a accepté de nous rencontrer et que ça s'est bien passé, quoi.
Lucille Comeau.
Depuis Louise Michel, vous mettez en scène des acteurs monstres, des grosses personnalités. On parlait de Gérard Depardieu, il y a eu aussi Isabelle Adjani, Benoît Poulvorde ou Yolande Moreau. Avec Michel Houellebecq, qu'est-ce que vous avez travaillé du point de vue du jeu ?
Pas grand-chose, en fait. Justement, c'est ça qui est... On n'est pas des extraordinaires directeurs d'acteurs. Et par contre, quand on sait quand ça ne va pas, mais on ne donne pas énormément d'indications. Et à tous ces acteurs que vous avez évoqués, on les a pas vraiment dirigés, justement. On trouve que c'est quand même leur boulot. Ils sont bien payés pour ça, quand même. Mais non.
Pas vraiment, pas de Depardieu.
Chez vous, ils sont vraiment si bien payés.
Pas
de Depardieu
et pas le mec.
Et pas Isabelle et Jenny non plus, j'ai l'impression.
Je plaisante. Non, mais à part ça, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu Houellebecq dans ses interviews à la télé.
Ouais. Et il y a quelque chose qui vous avait marqué ?
Bien sûr, comme tout le monde. Enfin, c'est silence, c'est peut-être le plus mauvais client de la télé. Mais pour
non, il y a Patrick Modiano aussi.
Oui, et Arnaud le chanteur aussi. Mais en tout cas, pour nous, c'était le meilleur des clients. Quoi, parce qu'on est toujours à la recherche de personnes un peu différentes, spéciales. Et donc, on a sauté sur ce... Et ils sont rares maintenant, donc on a sauté sur lui, bien sûr.
Puis le cinéma, c'est comme la cuisine. C'est comme la cuisine, il faut d'abord choisir les bons ingrédients, après ça va tout seul, c'est quand on se trompe au départ qu'il y a des soucis, quoi. Mais effectivement, comme on fait appel à des gens qui ont qui sont en phase avec eux-mêmes, qui ont un vrai caractère, une vraie vision de la vie. Ensuite, on n'a plus trop à les diriger, puisque, hein, par exemple, en ce qui concerne Gérard Depardieu, lui, s'était calé sur le souvenir qu'il avait de son père, donc on n'avait même pas à le diriger, sauf dans des cas très particuliers. Et là, c'est la même chose. Michel nous a avoué dernièrement qu'il n'avait qu'à penser au personnage qu'il aurait pu être s'il n'était pas devenu écrivain, parce que c'était complètement, ça aurait pu être son véritable CV, quoi. Donc, non, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, qui sont conscients de ce qu'ils sont devant la caméra et puis qui n'ont pas besoin d'être dirigés, quoi.
Madame Maris, comment vous comprenez qu'aujourd'hui Michel Houellebecq soit devenu une figure de cinéma, parce qu'il était aussi dans le film de Guillaume Niclou, hein, L'enlèvement de Michel Houellebecq? C'est intéressant de voir qu'au même moment, véritablement, des réalisateurs bien différents, dans des cadres bien différents, font appel à lui.
Je crois que c'est parce qu'il introduit une sorte de lenteur dans le jeu et que c'est lui qui fait que le timing, pardonnez-moi, j'aime pas ce mot, mais enfin, s'adapte à son personnage et à ce qu'il ressent, lui, profondément. Et donc, tout à coup, d'une certaine manière, la société s'arrête, et c'est un pas de côté, et on est obligé de voir et de penser ce que pense ce personnage. Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui est très juste, c'est-à-dire que un de ses grands problèmes, c'est que le temps passe, hein, c'est vraiment l'irréversibilité du temps, c'est quelque chose qui le marque beaucoup, enfin, moi, j'ai trouvé à travers ses livres, et c'est, en gros, ce qu'il dit, c'est que la vie ne s'améliore pas, mais elle finit par passer en plus, quoi. C'est quelque chose. Et donc, cette manière de voir le temps passer de façon irréversible et de plus en plus tragique, qu'on le ressent dans ces livres, moi, je suis sûr qu'on le ressent dans votre film et dans le film que j'ai vu, le précédent, ou dans L'Enlèvement, où effectivement, c'est lui qui donne la cadence, quoi. Et c'est une cadence qui fait que tout à coup, on ouvre les yeux. On se dit, ben, mon Dieu, c'est vrai, on vit ça, quoi.
Ouais, et puis, il est d'une lucidité totale.
Bruno Delépine.
On n'est pas habitué à voir la vérité comme ça qui s'impose. À son rythme d'ailleurs. Puis ces silences sont vraiment magiques parce que ce sont des silences emplis, quoi. C'est-à-dire c'est des silences où il réfléchit à ce qu'il va dire déjà, et puis justement on est dans son rythme à lui et plus dans celui de la société. Enfin, si l'homme occidental est un espèce de chinois qui fait tourner des assiettes au bout de perches comme ça à toute vitesse, comme ça on a tous la perche de notre famille, de notre boulot, de ceci, de toutes nos contraintes, faire ses papiers, ceci, enfin bon, bref, c'est un enfer. Et quand Michel se met à parler, on a l'impression que tout ça tourne un peu plus au ralenti, et donc tout le monde s'arrête.
On voit ce qui se passe. Et en fait, c'est le même rythme dans ses romans. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a aussi cette espèce de lenteur. Il a un style tellement à lui, et un humour tellement à lui, qu'il y a un humour ni noir, ni blanc, un peu gris, enfin, qui est un peu bizarre. Et cette espèce de lenteur, c'est ça aussi, ça fait que tout à coup, on a le masque qui tombe, quoi. Le voile se déchire, et on voit la société. Moi, je suis dans tous ces romans, et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire.
Lucille Comeau.
À propos des acteurs, vous allez chercher des gens un peu hors circuit pour jouer des petits rôles. Il y a eu Jean-Claude Carrière, Brigitte Fontaine, vous parliez d'elle tout à l'heure. Je crois que vous avez essayé d'avoir David Lynch, vous n'avez pas réussi. Pourquoi? Vous vouliez pour quel rôle?
Gustave Carverne?
Benoît, vas-y, raconte.
Non, mais c'était pour le rôle du début de David A, un espèce de milliardaire collectionneur d'art et tout. On trouvait que ça lui correspondait complètement. Et effectivement, ça a été une espèce de recherche de chasse au Lynch, une chasse mondiale au Lynch, mais qui s'est terminée dans un grand hôtel parisien au moment où on ne s'y attendait pas du tout. Un photographe nous a dit, mais il vient toujours à Paris dans tel hôtel. On y est allé en n'y croyant pas, quoi. On a demandé à voir Monsieur David Lynch et tout de suite le gars de la réception nous l'a passé au téléphone, quoi. Et là, on s'y attendait pas, et avec notre anglais approximatif, oh Mr. Lynch, we want you to play in our next movie. Et puis on entendait derrière, no, bah, c'était vraiment pas le moment. Et moi, j'ai compris now, moi, enfin maintenant. Oui, alors we arrive. Là, il a hurlé no. Et bon, du coup, on a cessé là tout contact.
Non, mais nous, c'est ça que
Gustave Carverne,
c'est que on part du principe que tout est possible. Donc,
oui, je vois ça.
Et ça, c'est ça qui nous fait rire. Et moi, on a même essayé on pensait même à Brigitte Bardot à un moment donné, à attaquer la madrague. Enfin, on avait pensé à Jean-Pierre Fourcade aussi. Ça, c'était,
ah oui,
notre,
ça, c'était encore un échec.
On avait reçu une lettre incendiaire de Jean-Pierre Fourcade, disant, mais parce que c'était le rôle d'un homosexuel dans un placard. Comment avez-vous osé penser à moi?
Et pour Brigitte Bardot, vous l'imaginiez dans quoi? Parce qu'elle va fêter ses 80 ans le 28 septembre prochain.
À la fin du grand soir. Hein, c'est vrai, les deux frères étaient partis, je ne sais plus d'ailleurs pour quelle raison.
C'était leur mère, leur supposée mère.
Oui, leur supposée mère, ouais, c'est ça.
Bah non, mais c'est vrai qu'on est à la recherche de tous les gens un peu... je sais pas, un peu spéciaux, quoi. Donc, et c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Alors, on aura bientôt fait tout le tour
des derniers mammouths.
Et on va s'arrêter là.
Oh, d'accord. On vous a demandé, comme à tous nos invités cette saison, de choisir des sons qui vous ont marqué. Et ça donne ça. Je serai toujours cet étranger, au regard sombre, un rebelle dans vos villes de contraste. Il n'en paie plus. Sombrero des concrets, action, elle est bonne, ça va pour le son. Il n'en paie plus. Il n'en paie plus. Identification du son, Gustave Carverne, c'est vous.
Ouais, ouais, Bachung, c'est mon chanteur préféré, comme on dit. J'adore l'album Fantaisie Militaire, mais je sais pas, sa voix, je l'ai vu dans un de ses derniers concerts. Je sais pas, il y a vraiment dans ses paroles, moi qui ne retiens absolument rien, qui ai des problèmes de mémoire comme Benoît, je retiens des phrases de ses chansons. C'est un vrai dadaïste pour moi de la chanson. Et en plus, mélodiquement, ça me plaît. Enfin, voilà. Et puis, pour le grand soir, on avait eu la chance d'avoir que Chloé Mons, sa femme, nous retrouve des morceaux d'harmonica de Bachung qui jouait souvent l'harmonica chez lui. Donc sur des bornes, il y avait des petits bouts d'essai comme ça et on les a mis dans le film. C'était une grande fierté.
Vous aviez pensé le faire tourner, par exemple?
Ça, malheureusement, ça fait partie des gens qui sont partis trop tôt, comme Guillaume Depardieu, comme... Il y avait des gens comme ça qu'on a loupé et on le regrette encore, malheureusement.
Autre son. Nadel Épine, c'est vous qui avez choisi Nirvana?
Ouais, raison. C'était pour, enfin, un hommage à Kurt Cobain, qui était un beau suicidé, on va dire. Et je sais pas, cette chanson-là était prise à l'époque comme un hymne à la jeunesse, mais dans les paroles, en fait, il se foutait un peu de la gueule des jeunes. Enfin, c'était plutôt on parle un peu du désespoir de la vieillissure dans notre film, mais il y a aussi le désespoir d'être jeune, il ne faut pas oublier ça.
Vous avez été désespéré d'être jeune?
Oh, c'était pas facile, de toute façon ça n'a jamais été vraiment facile.
J'irai pas plus loin, ça me fait peur comme réponse. Lucille Como.
Comme il est question de musique, il y a beaucoup de musique dans le film, on écoute le motif qui revient, il y a un motif qui revient en permanence. C'est le lead Gute Nacht du cycle Voyage d'hiver de Schubert. Et dans le film, c'est pas cette version-là. J'ai pas repéré les deux versions, mais il y en a deux. Une chantée par une femme, une chantée par un homme. Comment s'est imposé ce choix-là, ce refrain?
Ça, c'est un conseil de Michel, quoi.
Michel Houellebecq.
Pendant le tournage, on a écouté du Schubert parce que lui, pendant l'écriture de son prochain roman, là, pas pendant l'écriture elle-même, mais avant d'écrire, il écoutait du Schubert. Donc, on s'est pris de passion aussi pour Schubert, alors qu'on n'est pas spécialement féru de musique classique. Non. Et ça a été un des. Non, mais c'est vrai que ça a été un des. Enfin, essayer de tenir la force et la puissance d'émotion de ces morceaux-là, ça a été un des challenges du film. Enfin, même lui, en tant qu'acteur, il nous l'a dit à Venise. Il était carrément, pas au bord des larmes, il était en pleine larme à la fin du film, parce qu'il s'était enfin mis dans la peau du personnage et il était ému d'avoir, lui, en tant qu'acteur, été à la hauteur de ce morceau.
Oui, Gustave Kervern.
C'était notre DJ du film, parce que c'est lui aussi qui a choisi les morceaux de Black Sabbath, un groupe emblématique des années 70, et qui fait le contre-pied avec la musique classique. Donc c'est lui qui, vraiment, qui l'écoute aussi, avant de se mettre au travail. Donc c'est bizarre, mais on a mis ça dans la voiture en allant tourner, il dansait, enfin, il s'agitait autour de cette musique.
Et... Il s'agitait autour de cette musique. Ouais. Mais le mot danser, c'était... Ouais. Vous êtes revenu tout de suite dessus pourtant.
Oui, il dansait.
Ouais. Ouais, enfin, c'est ça.
Il dansait comme on peut danser dans une voiture. Hein, c'est pas...
Oui, c'est vrai, il s'agitait.
Mais voilà, non, mais donc c'est vrai qu'on a sauté sur ces morceaux et ça a été un peu même un problème parce que un morceau de Black Sabbath, ça coûte 30 000 euros. Donc c'était deux morceaux, ça faisait 60 000. C'était la moitié de notre budget déjà. Donc ça n'a pas été simple, mais à la fois on y tenait tellement, ça allait tellement bien qu'on a cassé nos... Beaucoup des vies.
Bon, non, on est allé voir, était obligé d'aller voir Canal Plus et Ciné Plus, et heureusement ils ont aimé le film. On a pu se payer ces deux morceaux-là.
Ouais, parce qu'on est parti sur ce film sans chaîne, on est parti qu'avec l'argent qu'on avait gagné sur les films précédents et le CNC, enfin ce qu'on appelle le fonds de soutien. Donc on avait l'intention de faire ce film avec une liberté totale.
Est-ce qu'il est intervenu sur autre chose que la musique, par exemple le poème de Baudelaire?
Non, c'est nous qui l'avons choisi parce que on savait qu'il était, qu'il était fan de Baudelaire absolu, mais ce morceau-là correspondait trop bien à ce qu'on appelle les near death experience, c'est-à-dire l'élévation comme ça, enfin la caméra qui s'élève pour voir son corps comme ça en plongée, et donc l'élévation de Baudelaire nous paraissait une évidence. Quoi.
Le rendez-vous, la chronique.
Chronique Place de la Toile avec vous, Xavier Delaporte. Aujourd'hui, une étude comparée.
Bonjour Laurent. Bah oui, il y a quelques jours est parue une étude tout à fait passionnante. Elle a été menée par un groupe de chercheurs norvégiens et français. Et elle portait sur la différence entre la lecture sur papier et la lecture sur liseuse. Vous le savez sans doute, depuis quelques années, cette question passionne le monde de la recherche. Et pas seulement le monde de la recherche d'ailleurs, puisqu'il est à peu près impossible aujourd'hui qu'un déjeuner de famille se termine sans que quelqu'un explique doctement qu'il est impossible de lire un roman sur écran et qu'un autre, en général un jeune neveu, se lève pour dire que lui lit sur écran. Donc des gens cherchent. L'expérience menée à l'université de Stavanger et à Aix est très simple. Faire lire à deux groupes homogènes le même texte, en l'occurrence une nouvelle policière d'Elizabeth George, l'un des groupes lisant sur papier et l'autre sur Kindle, les soumettre ensuite au même questionnaire et puis comparer les réponses. Alors les résultats de l'expérience sont intéressants. Dans bien des cas, les chercheurs n'observent pas de grande différence entre les deux groupes. Par exemple, la réactivité émotionnelle à la lecture est sensiblement la même. Rien que ça, ça méritait cette étude. On vit des émotions de lecture semblables sur papier et sur écran.
D'accord.
Parfois, les lecteurs sur liseuse sont même plus performants quand il s'agit de mémoriser les objets mentionnés dans les textes. C'est étrange. En revanche, il y a un aspect sur lequel les résultats divergent notablement et en faveur très nette du papier. C'est le groupe qui a lu sur liseuse s'est montré beaucoup moins compétent dans l'aptitude à reconstituer l'enchaînement des événements du récit. Alors ça c'est passionnant. Lire sur liseuse produirait une sorte de trouble chronologique. Alors on peut imaginer toutes sortes de raisons à ça. On peut imaginer notamment que la matérialité du livre est beaucoup, pour beaucoup dans ses vertus mnémotechniques, l'épaisseur des pages par exemple, permet de savoir sans même y penser, de sentir dans ses mains,
exactement,
ses doigts,
où on en est
du livre. Et donc par rétroaction, de se rappeler où dans le livre tel événement s'est produit. Combien de fois est-ce qu'on a cherché dans un livre un passage en laissant rapidement passer les pages donc sous le pouce parce qu'on savait à peu près où se trouvait l'événement. Bon. Il est évident que la liseuse ne permet pas cette expérience. La liseuse a un seul volume, une seule répartition du poids entre les mains, où qu'on en soit du texte. Bon. Ça n'est qu'un exemple parmi mille autres.
Non, mais c'est intéressant parce que la liseuse, c'est toujours l'instantané en fait. Chaque page est au pur présent. Alors
exactement.
Que le livre donne une durée.
Oui. Toutes les pages se ressemblent, elles sont toutes au même endroit. Exactement. Alors, tout ça pourrait expliquer la déperdition. Mais quand je dis déperdition, il faudrait nuancer. Évidemment, ne pas pouvoir restituer la chronologie des événements, ça paraît assez ennuyeux. Mais laisse tant que ça. D'abord, il faudrait savoir si ça ne concerne que les événements du récit ou si ça affecte aussi les étapes d'un raisonnement. Ce qui serait un peu plus ennuyeux, parce que franchement, pas être capable de remettre en ordre les étapes d'un polar, c'est pas forcément très grave, vous dit le type qui, tous les 5 ans, attrape dans sa bibliothèque la position du tireur couché de manchette et doit attendre les 5 dernières pages pour s'apercevoir qu'en fait, il a déjà lu il y a 5 ans. En revanche, ne pas pouvoir restituer un raisonnement, ça c'est embêtant, mais admettons que ça ne concerne que le récit. Pour la bonne raison d'ailleurs que le raisonnement, ça repose sur une logique plus ferme qui a moins besoin d'adjuvants matériels je pense. Est-ce que c'est vraiment si grave? La littérature contemporaine, et quand je dis contemporaine, c'est à peu près depuis le début du siècle, ne nous a-t-elle pas appris précisément à nous libérer de la chronologie des événements? Joyce, Woolf, Claude Simon, Arnaud Schmitt, qu'en ont-ils à faire de la chronologie des événements? Et est-ce que c'est pas précisément pour ça qu'on les aime? Parce qu'ils la tordent, parce qu'ils rendent compte d'une expérience du temps non linéaire, une expérience qui est celle de la modernité? On pourrait donc interpréter les conclusions de l'étude différemment et ne plus considérer les caractéristiques de la lecture sur liseuse comme une déficience, mais comme un accompagnement de la modernité, comme une augmentation de l'expérience. Ne fais pas cette tête, Manu Farine.
Non, non, mais
je
c'est
sais
vrai.
Que c'est extrêmement rhétorique, mais à mon avis, ça fonctionne. Comme une augmentation de l'expérience moderne, soudain secondée par un support qui la débarrasse des tentatives de la mémoire. Alors évidemment, la question c'est, est-ce que la lecture sur liseuse apporte quelque chose de plus que la lecture sur papier? Je disais tout à l'heure, c'est peut-être la mémorisation des objets. Alors, si c'est juste être capable de citer tous les objets mentionnés d'un texte, c'est moyennement intéressant. Mais imaginez-vous interroger sur le livre que vous êtes en train de lire en ce moment, là, le livre que vous lisez le soir avant de vous coucher. Je suis incapable de dire vraiment ce que ça raconte. En revanche, je sais qu'il y a une lampe, un téléphone, un tapis, un chien. Bon, tout texte deviendrait soudain une sorte de réécriture des choses de Pérec. Peut-être faut-il encore une fois, inverser le problème et nous demander tout simplement quels textes écriront les écrivains de demain quand ils n'écriront plus pour un livre, mais pour un écran. Quand ils auront intégré dans leur travail les particularités du support qu'il accueillera, comme l'ont fait depuis longtemps les écrivains avec le livre papier. Ça, malheureusement, je ne sais pas. Et j'imagine que, comme vous, Laurent, comme vous, Manu, comme vous, Lucine, nous ne serons pas là pour voir.
Merci Xavier, eh bien on se retrouve jeudi prochain.
Avec plaisir.
Avec plaisir et sans liseuse.
Ou peut-être.
Ah non, vous serez là. En chair et en os.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Bonté avec vous, Bernard Maris, vous êtes économiste d'un genre académique et iconoclaste, auteur notamment de Capitalisme et pulsion de mort ou de l'anti-manuel de l'économie, écrivain et journaliste sur France Inter, dans les colonnes de Charlie Hebdo, on l'a évoqué tout à l'heure sous le nom d'oncle Bernard, et vous signez donc aujourd'hui Houellebecq économiste chez Flammarion, un titre d'ailleurs que vous vous empressez de contredire dès les premières lignes. Faire de Houellebecq, je vous cite, un économiste, écrivez-vous, serait aussi honteux que d'assimiler Balzac à un psycho-comportementaliste. Et en conclusion, vous dites, Houellebecq économiste était un sourire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il faut comprendre cette dénégation?
C'est surtout pas, c'est évidemment pas un économiste, hein, Houellebecq. C'est bon. L'autre jour à Canal, il y a une fille qui lui a dit, mais vous êtes le meilleur économiste. Il s'était décomposé, mais c'est vrai, c'était incroyable. Il est tout sauf ça. C'est vraiment l'anti-économiste, si je puis dire. C'est comme dire Proust, c'est un bon sociologue. Hein, voilà, il a vraiment bien décrit le Faubourg Saint-Germain. Proust, quel sociologue, non? Mais c'est celui, je ne sais pas, par exemple, on parle de Baudelaire qu'il aime beaucoup. Baudelaire, son matériau, c'est l'ennui, le désespoir, le spleen, etc. Il en fait des poèmes absolument merveilleux. Et lui, une partie de son matériau, parce qu'il n'y a pas que ça quand même, une partie de son matériau, c'est l'économie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les traders, la finance, les gens de la communication pour lesquels il a un mépris absolu. Enfin, quand on lit la carte et le territoire, on voit que vraiment, c'est des gens qui l'intéressent pas du tout, alors qu'il aime beaucoup les ouvriers, il respecte les gens qui sont pas très loin des artisans, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une scène dans la carte et le territoire qui est incroyable. C'est une scène de destruction créatrice où il se met à pleurer parce qu'on lui supprime les chaussures dont il a l'habitude, la parka dont il a l'habitude et l'ordi sur lequel il a l'habitude de travailler. Donc tous ces concepts, c'est des concepts économiques. Et de même, quand il dit « nous sommes des kits définitifs », vous vouliez faire de lui un Diogène des supermarchés. Pour lui, le supermarché, c'est une sorte de métaphore du paradis contemporain. C'est-à-dire du paradis vu par les consommateurs qui sont insatiables. Cette insatiabilité, le fait qu'on en veuille toujours plus, le fait que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Je cite Houellebecq. Consommer, que voulez-vous qu'il fasse d'autre? C'est des mots très très dur. Mais c'est ça Houellebecq. Donc son matériau, c'est la souffrance dans l'entreprise, c'est le fait qu'on consomme de plus en plus sans savoir pourquoi on consomme, c'est cette compétition, cette concurrence qui fait qu'on court tous ensemble, après on ne sait quoi, le fait que... C'est toujours des histoires d'amour, hein, les livres de Houellebecq. Et chaque fois, c'est l'amour qui brise la chaîne du marché, si je puis dire. La chaîne terrible du marché qui nous étrangle, chaque fois elle se brise dans les personnages de Houellebecq par l'amour. Mais les personnages n'arrivent pas souvent à le saisir, Hein, et puis, il retombe dans la servitude volontaire, dans la vie, dans le désir de consommer. C'est ce qu'on ne vit pas, ce qui fait qu'on passe à côté de la vie. C'est pour ça que sa lenteur à lui, quand on est dans sa lenteur, dans son rythme, on est vraiment dans la vie, justement. Au contraire, on est dans ce qu'il faut vivre.
Manu Farine.
Vous écrivez, Bernard Maris, que Houellebecq parle de compétition, de destruction créatrice, de productivité, de travail parasitaire et de travail utile, de bien d'autres choses. Et il en parle mieux que les économistes, car il est écrivain. Qu'est-ce que ça dit, non pas de ce qu'est l'économie pour vous, on y reviendra, mais de ce qu'est la littérature pour vous?
Pour moi, la littérature, c'est très simple. C'est ce qui brise le rideau qu'on a devant les yeux. L'art, plus généralement. Mais l'écrivain, il y a une phrase de Kafka que j'aime beaucoup. C'est ce qui brise la glace qu'on a en nous. C'est le coup de hache qui fait que ça brise la glace et tout à coup, on voit les choses. Bon. Et donc, les grands écrivains, lui, c'est l'irréversibilité du temps, par exemple. Il n'y a pas eu que lui. Il y a Proust hein, qui a eu. Puis il y a eu Ronsard, après tout. Mignon, allons voir si la rose, c'est l'irréversibilité du temps aussi. Mais lui, c'est vraiment le temps qui passe et l'irréversibilité. Le fait que le temps passe, le temps passe, le temps passe, et malgré tout, ça ne s'arrange pas. C'est ça, la vie des gens. C'est que le temps a beau passer, eh bien, votre vie ne s'arrange pas. C'est absolument tragique, ce que nous vivons. Bon, Kafka, c'était « nous vivons dans une prison ». Orwell, c'était « ce qu'on nous raconte, c'est du mensonge ». Et lui, c'est « vous êtes dans un processus irréversible qui fait que vous êtes en train de vivre de plus en plus mal, et pourtant le temps passe ». Bon, à partir de là, c'est vrai qu'on s'en sort parce qu'on tombe amoureux, parce qu'on a du désir, des choses comme ça. Mais il raconte ce que nous vivons dans cette société qui, pour moi, comme il le dit lui, la société la pire parce que la plus naturelle. Voilà, le capitalisme est la chose la plus naturelle du monde, donc c'est nécessairement la pire des choses. C'est ce que je pense profondément. Et sur les économistes, dans la carte du territoire, il dit que les économistes sont des gens qui sont des charlots, quoi, on va dire la vérité. C'est-à-dire, des gens, ce ne sont pas des scientifiques, ils sont toujours capables d'expliquer pourquoi ils se sont trompés la veille, ils font toujours des prévisions qui sont mauvaises, quand il faut faire des prévisions, ils ne les font pas, ils ne voient pas arriver les crises, des choses comme ça, et puis ils reviennent quand même. C'est-à-dire qu'on les ressort pour dire, ah, tiens, il y a eu une crise, ah mais oui, je l'avais bien dit. Bon. Et ça, il le dit, puisqu'un de ses personnages, hein, c'est la femme du commissaire, et professeur d'économie dans la carte du territoire. Bon, moi, je trouve ça extraordinaire. Et en même temps, il a une vision de ce que va donner le capitalisme, dans la possibilité d'une île, dans la carte du territoire. Il voit où ça nous amène, cette affaire-là, quoi. Il voit où ça nous amène. La possibilité d'une île, c'est une minorité de super-riches qui sont en train de se reproduire, qui vivent la vie éternelle, tandis que le monde est dévasté, et qu'il y a des sous-hommes qui errent ici ou là. Donc ça, c'est Malthus, quoi. Il a le travail utile, le travail inutile, c'est Marx. Le fait que nous sommes des kids définitifs, comme il dit, c'est-à-dire des enfants à jamais insatisfaits, ça c'est Keynes. Donc voilà, on peut lire ses romans à chaque fois en associant un grand économiste à un de ses romans. Mais il n'est pas économiste, d'où Jésus. Non, il est tout sauf, il est anti-économiste.
Monsieur Como.
Gustave Carverne et Benoît Delépine, vous avez tous les deux fait des études de commerce avant.
Ouais. Vous vous destinez à quoi? On a tous les deux raté des études.
Vous vous destinez à quoi?
Bah moi, absolument à rien. C'était comme j'étais nul partout.
Gustave Carverne.
J'avais très peur du monde du travail, donc j'ai reculé le plus possible mon entrée dans ce monde, et ce qui est pour ma retraite, ce qui va être de plus en plus difficile, parce que la retraite n'est pas gagnée. Et donc, ouais, non, j'ai fait ça parce que c'était l'endroit où on m'a accueilli, mais j'étais totalement nul. Le premier boulot que j'ai fait. Il y a eu un audit qui est rentré dans l'entreprise et j'ai dû fuir la boîte parce qu'il y avait des erreurs dans la comptabilité monstrueuse. Donc non, c'est vrai que je n'étais pas du tout fait pour ça et heureusement que j'ai trouvé ma voie, mais aussi là, c'est le destin, c'est incroyable, mais ce n'était pas celle-là, la voie du commerce pour moi. D'ailleurs, notre boîte s'appelle No Money Production.
Et elle tient ses promesses?
Pour l'instant, on a tenu complètement nos promesses.
Benoît Delépine, et vous?
Moi, j'étais fils d'agriculteur. Et effectivement, pour un agriculteur, les enfants devaient essayer d'être soit médecin, soit ingénieur, enfin, à l'époque. Et puis bon, moi, je n'étais pas taillé pour tout ça. Donc, je voulais plutôt faire de la bande dessinée. Mais pour eux, c'était même pas... Il fallait même pas y penser. Donc voilà, ça s'est dirigé vers une école de commerce, mais pareil, je me sentais complètement inadapté à ce type d'études et aux gens qui y étaient. Mais en même temps, Je crache pas dans la soupe totalement parce que ça m'a vraiment permis de faire ce que font beaucoup de jeunes aujourd'hui, même des tas de stages dans le monde ouvrier et dans le monde des services et dans les services commerciaux et dans plein d'endroits ou dans les hypermarchés. Enfin, je veux dire, tout ce dont on parle dans nos films, tous les deux, on l'a peu ou prou vécu. Alors, pas sur des longues périodes, c'était un ou deux mois, mais en tout cas, on a pu en tout cas jauger, voir un peu ce qui s'y passait réellement. Quoi. C'était pas un fantasme absolu.
L'économie, comment elle est arrivée dans votre propre parcours, Bernard Maris ?
Oh, moi, je voulais changer le monde quand j'étais jeune. Donc, j'étais plutôt marxiste. Quoi. Donc, j'ai commencé à lire Le Capital, tout ça. Puis je me suis dit, faut améliorer la société. Quoi. Bon, et puis après, on se rend compte très vite. Moi, je suis une génération où tout le monde avait du boulot. Donc, moi, on m'a poussé vers la fac parce que je n'étais pas trop mauvais, mais c'était pas un problème à l'époque. Donc, je suis devenu économiste. Et puis, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que ce n'est pas une science. Quoi. C'est vraiment notre religion moderne et que, malheureusement, elle nous opprime, elle nous étouffe. C'est un surmoi terrible, l'économie, avec la pub, avec des choses comme ça. Tu dois être compétitif, tu dois faire ceci, etc. C'est une autorité incroyable. Et malheureusement, elle se part des oripeaux de la science. C'est-à-dire que les mathématiques, il y a des statistiques, il y a des chiffres, etc. Si vous voulez répondre à un chiffre, type, il arrive, vous fout un déluge de chiffres, un tombereau de chiffres sur la tête, bon, ben, vous êtes cuit, vous êtes coincé. Vous n'avez pas envie de lui dire, c'est pas ça la vie. Viviane Forrester avait fait un très beau livre tantôt, qui était L'horreur économique. Pourquoi il a eu tant de succès ce livre ? Mais elle avait été agonie d'injures par tous les économistes, par toute la classe économiste, mais elle disait des choses vraies. Quoi. Elle disait, c'est vrai que l'économie, c'est l'erreur. Hein.
On vous appelle, hein, Gustave Carver.
mes médicaments.
C'est une alerte alors. Ah bon. Moi, c'est IB généralement qui m'appelle.
La dictature.
La dictature, mais voilà.
Les labos, des labos pharmaceutiques, jusqu'où ça va.
On vous a coupé, Bernard Maris.
Mais c'est voilà, et donc alors ce que j'ai le droit de dire, moi, voilà, lui il peut pas le dire. Je crois que ce qui lui a plu, enfin ce qu'il m'a dit, ce qui lui avait plu, c'est que
Michel Houellebecq, hein, c'est
Michel Houellebecq, ce qui lui a plu, c'est que bon, moi je parle de l'intérieur, donc je peux le dire, quoi. Je peux dire que vraiment c'est pas vrai, c'est des gens, c'est pas une science, c'est une religion, c'est une mauvaise religion même.
Vous avez démarré donc avec Marx, Bernard Maris, mais l'essai qui nous occupe aujourd'hui, donc Houellebecq économiste, c'est aussi une déclaration, presque une déclaration d'amour à l'économiste anglais Keynes. Donc il y a du grand Keynes, du le plus grand, le magnifique, le cher Keynes. En quoi Houellebecq pourrait-il rejoindre Keynes ?
Parce que Keynes plaçait les artistes au-dessus de tout. Il avait une vision hiérarchique de la société et considérait qu'en haut, il y avait les artistes, notamment ses amis, c'est-à-dire Virginia Woolf, Alison Strachey et d'autres. Bon, il considérait que c'était le peintre Duncan Grant, tout ça. Il considérait, bon, lui, il n'était pas capable d'être artiste. On disait vraiment, c'est eux qui nous montrent ce qu'est la société. Il disait, à côté, il y a les chefs d'entreprise, et eux, c'est des frustrés. C'est des types qui n'ont pas pu être artistes. Ils ne s'en remettent pas. Et donc, toute leur libido, ils la mettent à embêter les autres et à faire de l'argent, etc. Et c'est pour ça qu'ils deviennent chefs d'entreprise, c'est parce qu'ils n'ont pas pu être artistes. Et il disait, bon, on est dans une société... il était pour la décroissance, Keynes, par exemple. Il était très écolo. Il était pour la décroissance. Il était pour une société où les gens travaillent peu et se consacrent, on va dire, au théâtre, à dire du mal des amis, parce que ça, c'était quelque chose qu'il adorait. C'est dire du mal des autres, des choses comme ça. Bon, flirtailler, lui, il était bi, il était à la fois homo, il était hétéro, bon, tout ça. Donc, il disait, voilà, on est capable d'avoir ce genre de vie parce que la société nous donne tous les moyens d'avoir ce genre de vie. Et donc, il disait, dans les années 2020, on devrait travailler 10 heures par semaine et puis passer notre temps un peu comme des...
C'est ce qui se passe comme des gynistes. Gustave Carver, voilà. Sociologue.
Donc, on voit que vraiment, il n'a rien compris. Quoi. Il n'a pas vu ce qui allait se produire et qu'au contraire, on irait vers de plus en plus d'horreur, quoi, vers l'horreur économique. Donc pour moi, c'est vraiment le plus grand. C'est de loin, oui.
Pour finir, eh bien, on va finir avec le son.
Benoît Delépine se met à vouloir appliquer ce keynésianisme-là, ça fasse des étincelles. Mais bon.
Je ne pense pas qu'il ait la même sexualité non plus. Non. Bon, on finit avec le son que vous nous avez apporté. Bernard Maris.
Le capitaine était dans l'assurance et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France, le sergent était boulanger-pâtissier, le caporal était dans l'ignorance, et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça... ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont des cautions, leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens.
C'est presque toujours karaoké, hein, ici, sur Bernard Maris. Vous chantez sur Maurice Chevalier.
Oui,
identification de ce son.
C'est la carte de territoire, parce que c'est une réflexion sur l'avenir de la France, la carte de territoire. Moi, je crois que la France est morte, là, en 40, quoi. Et ça se passe, c'est une chanson de 39. Déjà, elle avait pris une belle pigne en 14-18. Et en 40, c'est la deuxième, c'est que ça la met KO, et que va devenir la France? Et la carte et le territoire de Michel Houellebecq, il répond, on va devenir quoi? Une sorte de musée pour les Chinois, hein, où vraiment les Chinois qui sont très riches vont venir voir le bordel à l'ancienne, des trucs, enfin, des trucs... Bon, les Français qui sentent un petit peu mauvais avec le pain sous le bras, qu'est-ce qu'on peut devenir d'autre? Donc.
D'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillés, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures, lèvent la bien portant, tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là? Mais du pinard et du tabac.
Ben voilà, tout est dit. Tout est dit.
C'est Groland, ça.
Exactement.
C'est Groland. Le pinard et le tabac.
Merci à tous.
Kafka, c'était « Nous vivons dans une prison ». Orwell, c'était « Ce qu'on nous raconte, c'est du mensonge ». Et lui, c'est
un enfer.
Merci à nos invités Gustave Carverne et Benoît Delépine. Votre film « Near Death Experience » est sorti hier en salle. Bernard Maris, vous signez Houellebecq économiste aux éditions Flammarion. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain...
Les Parisiens, à quelle chance ils ont
les Parisiens, vivre à Paris. Puisque sur tous les murs de Paris, on peut lire Paris, la Normandie.
En moins de 2h30.
Et oui, demain, on sera à Deauville, en direct de l'hôtel Normandie pour le Festival du film américain dans le cadre du Week-end Amérique de France Culture. Nous recevons entre autres le producteur Brian Grazer et la chanteuse membre du jury, Christine and the Queens. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilotte. Chronique, Xavier Delaporte, Journal de la Culture, Zoé Sfez. À la technique, Lucas Vaillant, à la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez télécharger, réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Parfait, Hippolyte. Il est 19h54, vous écoutez France Culture. C'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.